deux serviteurs de Christ qui ont servi ici pendant 7 ans. Où ils sont? Où sont Normand et Élise?
Oh!
Ça, ça soit toujours en arrière. Approchez-vous un peu, là. On veut vous mettre en honneur ce matin. Venez par en avant. Jusqu'à tout récemment, Normand était pasteur ici. La majorité d'entre vous, vous le savez, mais il y a certainement quelques visiteurs. Et juste un petit mot sur le chant qu'Esther a chanté. On va avoir des témoignages dans un instant, tout ça. Puis Esther voulait choisir un chant qui peut-être plairait à Lise, un chant un peu lyrique. Mais peut-être que vous êtes en visite ce matin. Et dans ce chant-là, il y a toutes sortes d'allusions. Il y a ceux qui sont très familiers avec les Écritures, vous avez entendu Dieu parler à Job. Mais on entend aussi, lorsque Jésus enseigne, comment l'Esprit-Saint travaille, et c'est mystérieux. Finalement, c'est un chant qui exprime la quête de celui qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, qui a un sentiment profond qu'il y a quelque chose au-delà de ces quelques années que nous passons sur Terre, que nous ne sommes pas seulement de la matière, mais que nous avons une âme, et qui ressent ses aspirations, mais en même temps qui ne sait pas où tourner la tête. Et c'est vraiment le dialogue que Job avait avec Dieu. Et l'homme ne peut connaître de Dieu véritablement, profondément, que ce que Dieu lui fait connaître de lui-même. Et c'est en rencontrant Jésus-Christ que toutes les questions qui étaient exprimées dans le chant tout à l'heure trouvent leur réponse. C'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment un beau chant. Et ça exprime ce que bien nos contemporains vivent. Et ils cherchent partout, dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de philosophies. C'est seulement en Jésus-Christ que toutes ces questions, toutes ces aspirations de l'âme trouvent leur réponse. En tout cas, je voulais juste jeter un petit peu de lumière sur le chant qui a été chanté. Puis en même temps, on l'a choisi pour Lise, parce qu'on s'est dit que c'est un beau chant lyrique, puis que Lise allait l'apprécier. On a deux petits témoignages ce matin. J'aimerais inviter les frères à venir me rejoindre à l'avant. Claude Lapointe et Michel Parisien vont donner un mot de témoignage sur les Joseph. Je vais descendre ici, François. Est-ce que je travaille avec ça, François? C'est bon? Comme vous voulez, messieurs, dans l'ordre que vous voulez.
J'ai été choisi en premier. Normand et Élise. Normand. Un jour, j'ai demandé à Normand, on était dans le groupe LSR, puis j'ai demandé, le but de LSR, Normand, c'est quoi au juste? Il m'a dit, avec un petit sourire, il dit, ben c'est pour te voir prêcher en avant, mon mec, à un moment donné. Fait que j'ai dit, les faux, tu vas me voir parler en avant, mon frère, prophétisant. Ben aujourd'hui, prophétisant. Lorsqu'on m'a demandé de faire une allocution pour Lise et Normand, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, est-ce qu'on leur fait un bien cuit ou on dit la vérité une fois pour toutes? Alors, j'ai décidé de dire la vérité. mais j'ai quand même une limite de temps. Donc, je vais me restreindre un peu. Pour vous mettre en contexte un peu sur mes liens avec Lise et Normand, quand je suis arrivé à l'Église en 2005, moi et Normand, on a rapidement établi une amitié tous les deux. Il y a une chimie qui s'est installée, puis on est devenus... un peu plus que des frères, on est devenus un peu des chums de gars. Et le problème, c'est qu'avec ça, c'est que Normand a rapidement appris que j'étais capable de gérer des projets et il en a profité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention à dire à des pasteurs quand on est capable de gérer des projets et des choses. Parce qu'il arrive rapidement à dire « Hey Mike, j'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de quelque chose. » Donc, ça, rapidement, on est devenus des collègues. Je suis devenu son adjoint. Et ensuite, je me suis intégré au groupe LSR. LSR veut dire « leader serviteur qui se reproduit ». Lorsque Lise et Normand ont vendu leur maison à Saint-Bruno, il y avait un délai d'environ 3 mois, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais il y a eu un délai d'environ 3 mois sur lequel ils devaient quitter leur maison Saint-Bruno, mais leur maison de McMaster n'était pas encore prête parce qu'elle était en construction. Fait que durant ce temps, ils sont venus vivre chez moi dans ma maison. En fait, je dirais « ils », c'est plutôt Normand qui est venu parce que Lise est allée chez une de leurs filles. Et donc, moi et Normand avons vécu ensemble Je le dis comme ça. Maintenant, tout le monde le sait que moi et Normand avons vécu ensemble. Mais encore là, écoutez, j'ai quand même une limite de temps, donc je pourrais pas vous raconter certaines choses de notre vie à deux. Mais par égard à la solidarité masculine, messieurs, vous me comprendrez, hein, je vais tenir certaines choses mortes. Ouais, je sens qu'il y a une déception ici. Donc, mais comme ils sont des gens de cœur, je vais parler avec mon cœur. La sincérité de Normand, son amour réel pour l'Église, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti de mon temps avec Normand. Quand je dis que son amour réel pour l'Église, je parle de son amour réel pour nous. Parce que c'est nous qui sommes l'Église de Christ. Et comme l'avait si bien raconté mon frère Claude à un moment donné sur le feu qui était arrivé à son Église, peut-être qu'il vous l'a déjà raconté, il y a quelqu'un qui avait dit à son pasteur, « Hey, l'Église est en feu, l'Église est en feu. » Son pasteur avait dit, « Non, non, il dit mon Église, sont tous ici, là, sont tous là. » Et ça, c'est une image qui m'a toujours marqué, parce que oui, c'est vrai, c'est nous qui sommes l'Église de Christ. Et Normand a un réel amour pour nous. C'est vraiment des qualités qui font partie de sa vie. Normand est réellement engagé à vouloir servir le Seigneur. Il a réellement le désir de nous aider à grandir dans notre démarche spirituelle. Pour moi, c'est quelque chose qui, ça a été une bénédiction d'être proche de Lise et Normand. Être proche des pasteurs, être proche des dirigeants, quand on se pose des questions sur la Bible, quand on se pose des questions sur des passages, pour moi, ça a été fantastique. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris à travers la vie chrétienne en étant proche de Normand, et je l'en remercie énormément pour ça. Il y a eu énormément de bons moments avec Normand. Il y a eu aussi des brassages, parce que Normand, quand on est ami avec lui, il faut accepter qu'il va nous brasser, il faut accepter qu'il va voir des choses en nous. Il voit les bonnes choses qui sont à faire grandir en nous, et il voit les mauvaises qui sont à changer. Normand a vu des choses en moi qui étaient à changer, et il m'a aidé à les changer, il m'a aidé à mettre le doigt dessus. Et ça, c'est une chose, une belle qualité qu'il a. Il veut voir les choses qui sont en nous pour servir l'Église de Christ. Normalement, cette capacité de voir des fois des choses qu'on ne voit pas pour nous amener à bien servir le Seigneur. Son intérêt aussi au groupe LSR était vraiment réel. On sentait, en tout cas moi je le sentais là, dans le cours, que Normand avait une grande... il était heureux de nous transférer ce qu'il savait, de nous transférer à comprendre les Écritures. Et il était heureux, surtout quand on comprenait ce qu'il voulait dire. Pour Lise, je dirais que sa plus grande qualité, parmi toutes celles que j'ai vues, outre son service au kiosque, sa plus grande qualité, et ça, monsieur, vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'elle est derrière son homme. Et tous les hommes vont vous le dire, une épouse qui est derrière son mari, Dieu regarde ça, Dieu voit ça, et ça n'a pas de prix. Et Dieu va se servir d'eux pour faire des grandes choses. Et je suis certain que Dieu va poursuivre son œuvre avec vous à Gatineau. Personnellement, je vous remercie beaucoup pour votre amitié. Merci pour votre dévouement et votre soumission aux appels que Dieu a fait dans votre vie. Merci aussi pour ce que vous avez fait parmi nous, pour votre présence parmi nous, et je sais que Gatineau va être grandement béni de vous avoir. À votre tour, soyez bénis dans vos ministères, que Dieu vous garde entre ses bras, et on vous aime beaucoup, et moi, je vous aime beaucoup. Amen.
Bon, là, je suis en train de me demander s'il y a du favoritisme dans cette église, parce qu'il y en a qui ont été avisés avant, qui avaient une petite adresse à apporter, et d'autres qui ont été avisés là, qui aimeraient qu'ils apportent une petite adresse. Mais écoute, ça me force pas pantoute. Ça va être à fret. Ça sera pas aussi long, mais ça vient juste du même endroit. Alors, c'est sûr que Lise... Écoute, j'en ai moins à dire, surtout parce que je te connais moins, mais j'adhère pleinement à ce que Michel a dit. On a ressenti ça comme assemblée, que tu étais derrière Normand tout le temps. Et comme mari époux, c'est sûr qu'on ne peut qu'apprécier cette qualité chez nos épouses que d'être celle qui est derrière son homme. Normand, je vais m'adresser plutôt comme quelqu'un qui, ça fait moins longtemps que la plupart d'entre vous le connaissez, parce qu'on est arrivé à l'église ici il y a 3 ou 4 ans maintenant, Et je le dis bien candidement, je l'ai déjà dit à plusieurs ici, on était en magasinage d'église. Puis je le dis pas péjorativement du tout, je le dis comme quelqu'un qui arrive dans une communauté et au contraire de ce qu'on avait vécu avant lorsqu'on était au Nouveau-Brunswick, où il y avait une église à laquelle on pouvait participer, le choix était pas compliqué, on allait là. Mais ici, il y a beaucoup d'églises parmi lesquelles on peut se joindre et on a été à l'une et à l'autre pour voir où on était le plus confortable. Ma femme avait déjà pas mal son œil sur l'église de Longueuil, qui aimait beaucoup la louange, et ça, c'est une chose qu'elle m'avait dite auparavant. Moi, je suis un petit peu plus concret, ça me prend de la viande sur l'os, et le premier dimanche où on est venu, c'était sur la salle, et Normand entamait une étude sur l'importance de la famille de Dieu. Je sais pas si tu t'en souviens, on y parlait des outardes, le vol des outardes. Alors, c'était beau, c'était poétique, je voyais, juste à l'entendre, le vol des outardes, le V formé par le vol des outardes, le premier en avant qui était relayé par les autres qui venaient par la suite, c'était beau, sans bon sens. Et là, à la suite, à la fin de son message, il dit, c'était le premier d'une série de quatre, on espère que vous serez là pour les autres. Alors, en sortant, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut qu'on soit là la semaine prochaine. J'ai dit, je veux entendre le reste. Alors, le dimanche d'ensuite, on s'en vient, puis là, je me pouvais plus, ça me tentait d'écouter le reste. Puis là, qui je vois arriver en avant, c'était Yannick. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce qu'il fallait, lui? Mais écoute, on s'est marié. Lui, il dit, chez nous, les outardes, ils disent, on voyait pas ça tellement poétiquement comme normal. Il dit, chez nous, on est des chasseurs. Ils disent, on les chasse, les outardes. Puis là, il part là-dessus. Mais écoute, c'était au moins aussi bon, OK? Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une équipe pastorale ici. Et ensuite, on est revenu, bien sûr, pour les autres. On voulait écouter le reste de la prédication. Et j'ai vu vraiment l'équipe pastorale, c'était fort. Et ensuite, ben, j'ai appris à connaître Normand un peu plus personnellement, notamment, entre autres, autour de Bouffe pour tous. Alors, c'est là que j'ai appris qu'il avait vraiment un cœur pour les âmes, et on s'en parlait souvent quand on était ensemble à Bouffe pour tous. Et pour moi, ça a été un modèle. Aussi, à LSR, écoute, je suis jamais allé aussi profondément dans les Écritures. Quand je disais que j'aimais avoir de la viande sur l'os, j'en avais agrugé, là, mais pas à peu près. Puis on était rendu à la moelle, puis c'était bon tout le tour. Alors, je remercie beaucoup Normand pour ce qu'il a apporté dans ma vie. Merci d'être passé dans ma vie, Normand.
Merci les frères pour les témoignages. C'est bon. On va prendre un temps de la parole. Tout à l'heure, on va prier pour vous. On va vous demander de nous donner aussi un petit peu de nouvelles, votre intégration, tout ça. Mais je vous inviterai à tourner tout de suite avec nous dans 2 Corinthiens au chapitre 4. On veut évidemment prendre un temps dans la parole de Dieu. Nous sommes assemblés pour que Dieu nous parle. On va voir si Dieu a quelque chose à dire à Normand et Lise. J'ai trouvé que Dieu avait quelque chose à me dire à moi comme pasteur. Et je pense que c'est le cas aussi pour ce cher collègue. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et mon épouse Esther va nous faire la lecture des versets 1 à 18 pour prendre une courte méditation, j'espère, dans 2 Corinthiens. On va écouter ensemble. 2 Corinthiens 4, 1.
C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
De la parole de Dieu, on va prier ensemble. Père éternel, je veux te bénir pour ton amour pour nous. La grâce incompréhensible que tu nous fais de te connaître, Père. D'avoir connu Jésus-Christ. D'avoir placé en nous ce trésor, Seigneur. Je te bénis, Père, de ce que tu t'es penché vers nous. Et tu t'es révélé à nous. Nous ne te méritions pas, Seigneur. Et tu as fait de nous tes enfants, de nous tes serviteurs. Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés pour honorer, pour encourager, pour édifier Normand et Lise. Pour considérer, Seigneur, tes bienfaits envers nous, à travers ton serviteur et ta servante. Pour considérer, Seigneur, tes bienfaits envers cette Église. Pour considérer, Seigneur, ce qui est devant nous, ce qui est devant eux. Je prie, Père, de bénir ces paroles de Paul ce matin dans nos cœurs et dans leurs cœurs. Afin que nous avancions avec joie, Seigneur, dans la mission que tu nous as confiée. Normand et Lise à Gatineau et nous ici à Longueuil. Peut-être au Chili aussi. Au Honduras ou à Rivière-du-Loup. Viens, Seigneur, fortifier nos cœurs. Viens bénir cette parole en nous. Et si ce matin, Seigneur, quelqu'un parmi nous cherche à tâtons, comme Esther l'a si bien exprimé tout à l'heure, dans ta grâce, Seigneur, viens retirer le voile qu'il y a sur son cœur, afin que ta lumière divine, Jésus-Christ, pénètre en son cœur. Amen. Amen. Alors, Normand et Lise, on est ici pour vous honorer ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait fait des au revoir vite, puis versé des grosses larmes ensemble devant la séparation. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. On veut vous honorer. On veut se rappeler aussi des choses que le Seigneur a faites à travers ces 7 années. Puis vous encourager aussi dans le ministère auquel vous êtes appelé là-bas. Ton passage ici, Normand, était assez court. Si je pense à Laval-Est, 7 ans ici, combien de temps à Laval-Est? 16 à Lavalest. Fait que somme toute assez court ici. Quand je pense encore à Lavalest, dans ma tête, c'est Normand puis Lise. Puis pourtant, ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus là. Mais 7 ans, ça passe vite. Puis je prenais le temps cette semaine quand même juste de considérer ce que Dieu a fait ici au milieu de nous, dans l'Église, à travers ces 7 années-là. Puis comment Dieu s'est servi de 7 périodes dans l'histoire de l'Église pour faire avancer les choses. Et je vais juste en mentionner quelques-unes, d'accord? Et évidemment, je ne vais pas dans nos vies personnelles. En 7 ans, votre famille s'est complètement transformée. Si on allait dans votre vie personnelle, dans nos vies à nous, tout ce que le Seigneur a fait, les enfants, les mariages, les conversions, les épreuves qu'on a pu traverser, vraiment, on pourrait continuer toute la journée. Mais un peu plus largement, au niveau de la vie de l'Église, rappelons-nous rapidement, 7 ans, je vais en oublier, je vous le dis, soyez pas offensés, s'il vous plaît. On a vu Hugo, mon frère, hein, tout Seigneur, tout honneur, commençons par la famille. Mon frère Hugo, entré dans le ministère pastoral avec nous sur l'équipe, quelques temps avec nous, puis après ça, partir à Rivière-du-Loup, et déjà, ils sont dans la 4e année d'implantation de l'Église. Ça s'est fait dans les 7 dernières années, ça. Les petits groupes, lorsque tu es arrivé, si je ne me trompe pas, il devait y avoir 6 ou 7 petits groupes. Et ça, c'était vraiment comme en train de... sur une phase de ralentissement. Et par la grâce de Dieu, on a fait les 40 jours, on est allé jusqu'à 30 groupes. Et puis aujourd'hui, on a 16 petits groupes un peu partout sur la rive sud, bientôt 18, où les gens entrent en relation les uns avec les autres. Ça s'est fait dans les 7 dernières années. Notre assemblée a commencé à servir activement la population de Longueuil à travers le ministère de Bouffe pour tous. Ça, c'est vraiment un changement dans notre ADN profond. Et quel est l'avenir? Ça, c'est le Seigneur qui le sait, mais il y a quelque chose qui a changé. On est sorti de notre bâtiment où on étudiait la parole et on priait pour dire, OK, il va falloir mettre ça en action concrètement. Et ça, c'est venu changer la personnalité de l'Assemblée, de l'Église. C'est quelque chose de majeur. On a vu un beau ministère comme jamais tout seul naître, et qui sait si on ne va pas le voir renaître, mais c'était un petit peu dans le même sens, c'était auprès des enfants. Mélodie Francis, qui est partie pour le Honduras. Les Bascounans. Est-ce que les Bascounans sont ici ce matin? Je ne les ai pas vus. Hein? Les Bascounans qui sont partis pour le Chili. Ça s'est fait pendant cette période-là. Et puis là, ils sont ici en période de repos pour quelques mois. Jean-Philippe Lapierre est entré dans le ministère pastoral. Il travaillait à Mission Bon Accueil. Il est entré dans le ministère pastoral. Il s'est investi dans la vie des jeunes gens de cette église. J'entends encore parler de ce que Dieu a apporté dans leur vie à travers Jean-Philippe. Puis aujourd'hui, il est pasteur à l'église d'Alma avec Catherine là-bas. Ils sont en train de servir. Ça s'est passé dans ces 7 années. Après 10 années, vraiment, évidemment, c'est pas le moindre, mais une des choses les plus évidentes et les plus concrètes. Après 10 années à tricoter avec des doubles cultes, un bâtiment qui était littéralement effacé dans un petit quartier résidentiel où un visiteur n'allait pas arriver là par accident. C'était absolument impossible, totalement inconnu. Le Seigneur a permis qu'on déménage ici, qu'on s'en vienne ici. Et on est positionné pour l'avenir. Les gens entendent et apprennent à connaître cette église. Et puis, on est placé à côté d'un champ missionnaire absolument extraordinaire. Et ça, ça s'est passé pendant ces 7 années avec vous ici. On a vu nos cours bibliques, nos cours pour adultes se structurer, s'étoffer, devenir une bonne base aussi pour notre foi. On a vu des sœurs comme Jessica Ellie se dévouer pour atteindre les jeunes au cégep. On a vu Alexandre Marquis se préparer pour le ministère. Et Dieu sait que le Seigneur s'est servi de toi pour confirmer des choses dans sa vie, dans son cœur, dans son appel pour le ministère pastoral. Et on a le plaisir de l'avoir maintenant avec nous comme ancien sur l'équipe. On a vu des frères comme Michel Famy devenir ancien pendant ces 7 années-là et venir se joindre à nous. Et justement, cette équipe pastorale dont parlait tout à l'heure Claude, venir vraiment grossir ses rangs. Et surtout, on a vu des belles conversions, pas assez nombreuses à notre goût. On voudrait toutes les amener avec nous au ciel, mais on a vu des belles conversions. Des belles conversions. Alors, il y a tellement de bénédictions qu'on pourrait mentionner, puis si je prends le temps de les mentionner, c'est pas que le mérite revient à Normand, à moi ou à qui que ce soit, c'est vraiment l'Église qui a fait toutes ces choses-là. Et si le Seigneur revient juste dans 50, 60, 70 ans, si l'Église a 100 ans, ces 7 années-là vont être une toute petite tranche de vie. Mais quand on prend le temps d'entrer dedans et de compter les bienfaits de Dieu, on voit la grandeur et la beauté de Dieu. On voit qu'il était à l'œuvre. Il a fait des choses extraordinaires. Et ça, c'est pendant votre passage ici au milieu de nous. Et vraiment, tout le mérite est à Christ. Parce que c'est toujours le corps de Christ qui fait tout ça. Mais on a eu ce privilège, toi et moi, d'être à quelque part à la proue pour pouvoir diriger tout ça. Et ça, c'est vraiment un honneur, un grand privilège. Et c'est sûr, il y a eu des épreuves difficiles. On a pleuré ensemble, on a versé des larmes ensemble. On a vu des frères et des sœurs partir rejoindre le Seigneur aussi pendant ces 7 années-là. Mais je voulais simplement souligner combien de belles choses Dieu a faites à travers 7 ans qui sont courtes et Dieu est puissant. Et ce n'est pas terminé encore, parce que là, le Seigneur vous a amené à Gatineau. Vous avez des beaux défis à relever là-bas. Nous, on a notre champ missionnaire ici. Les défis sont énormes. Alors, le Seigneur va continuer à faire des belles choses encore. Mais ça fait du bien de compter les bienfaits de Dieu. De voir que Dieu est à l'œuvre, la vision, on a élaboré la vision ensemble, on a clarifié des choses pour se concentrer sur les choses essentielles pour le royaume. Vraiment, on a fait des belles choses. Et le Seigneur a fait des belles choses à travers nos vies. Alors, cette semaine, je réfléchissais et je me disais, bon, où on tourne dans la parole? On met de côté Matthieu ce matin, puis où on tourne dans la parole pour t'encourager dans votre ministère là-bas, pour nous encourager ici, pour encourager toute l'Église? Et j'ai décidé de tourner dans ce passage-là, dans 2 Corinthiens 4, où Paul nous parle de son ministère comme apôtre, mais Paul nous parle aussi de notre ministère à nous comme prédicateur de la parole et de notre ministère à nous qui portons en nous ce message de la parole. Alors, je le fais en toute amitié, Normand, mais en même temps, tu me connais, je veux t'encourager comme les chrétiens le font, en t'exhortant aussi, en t'encourageant à garder les yeux centrés à la bonne place. Et j'ai vraiment aucune prétention de t'enseigner quoi que ce soit ce matin. Mais en relisant ce passage, je me disais, ça fait tellement du bien de se rappeler ça et de rester concentré sur ces choses-là. Fait que je te partage ça avec mon cœur et que Dieu puisse te soutenir et t'encourager là-bas dans le travail. Et le désir de mon cœur, c'est qu'on puisse être concentré sur l'essentiel de ce que le Seigneur nous confie. Dans le passage... Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle la vérité la plus importante. On va parler de ministère, de prédicateur, on va parler de pasteur ce matin. On souligne un appel particulier sur la vie d'un homme comme pasteur. Mais dans le passage qu'il y a ici, alors que Paul va nous parler de son ministère d'apôtre, qui est un prédicateur, il nous rappelle la chose la plus importante. Celle qui est tellement, tellement, tellement facile à oublier. Et j'oserais dire, lorsqu'on est activement engagé dans l'Église, encore plus facile à oublier. Et pourtant, c'est la première chose qui devrait venir sur nos lèvres le matin lorsqu'on se réveille. Paul nous rappelle que nous avons tous reçu un trésor. Paul nous rappelle que nous avons tous reçu un trésor. Dans le contexte, il parle spécialement de la révélation que les apôtres ont reçue de l'Évangile. Mais en même temps, un tout petit peu plus tôt, à la fin du chapitre 3, lorsqu'on lit le texte, lorsqu'on va un peu plus tôt, on voit que ce trésor a été donné à tous ceux qui ont connu personnellement Jésus-Christ. Regardez le verset 6, 2 Corinthiens 4, 6. « Car Dieu qui a dit... La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. En d'autres mots, Dieu est venu éclairer nos cœurs ténébreux pour que nous comprenions qui est Jésus-Christ. Et en découvrant la personne de Jésus, nous pouvons enfin connaître vraiment Dieu. Celui qui n'a pas connu Jésus-Christ ne connaît pas vraiment Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Depuis l'existence de l'homme, Dieu ne s'est jamais révélé aussi parfaitement qu'à travers la personne de Jésus-Christ. Et le simple fait que nous connaissions personnellement toi et moi et tous ceux qui ont cru en Jésus dans cette salle, le simple fait que nous ayons ce privilège extraordinaire de connaître Christ, de connaître la gloire de Dieu qui est manifestée à travers la personne de Jésus-Christ, qui s'est manifestée dans toute sa puissance, dans toute sa richesse. Dieu ne pourra jamais nous donner un plus beau cadeau que ça. Jamais. Il peut rien ajouter à ça. Ni le ministère pastoral, ni notre service, rien de plus grand ne pourra être ajouté à ce trésor que nous avons reçu au moment de la conversion. » Bien sûr, si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, je m'adresse peut-être à des visiteurs ou des gens qui sont moins connaissants de la parole. Vous ne lisez pas régulièrement les Écritures. Peut-être que vous êtes en train de dire, bien écoute, il y en a que tout le monde connaît Jésus-Christ. La majorité des gens connaissent les faits sur Jésus. C'est le chef de la religion chrétienne. Et puis, ça vient du judaïsme. Et puis, on dit qu'il a dit de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Donc, plein d'informations sur Jésus, des faits sur Jésus. Je comprends. Tout le monde sait ça. Plein de monde savent cela. On l'enseigne à nos enfants comme une culture religieuse. On leur communique ces choses-là. Mais ce n'est pas de ce genre de connaissances dont je suis en train de parler ce matin. Laissez-moi être cru. À la limite, le diable connaît toutes ces choses-là sur Jésus-Christ. Ce sont des faits. C'est des informations. Je parle ici de la conversion. Je parle ici de ce moment où Dieu retire le voile sur un cœur, enlève le voile de notre cœur pour y faire pénétrer la lumière divine et nous faire découvrir personnellement, intimement, la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est un privilège. Et à tous ceux et celles qui annoncent Jésus-Christ depuis des années, vous savez, Normand et moi, on sait, que lorsque la lumière pénètre le cœur, c'est une grâce de Dieu. C'est un privilège. Regardez encore le verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ce que Paul est en train de faire ici, Paul est en train de faire une comparaison. Il nous ramène au début à la création. Dans la Genèse, il nous est dit qu'au début, tout était noirceur. Ça ne me dérange pas ce que vous croyez ce matin sur l'origine du monde. Ça part tout de la noirceur. Et un jour, il y a eu de la lumière. Bien, dans la Genèse, dans Genèse 1-3, il nous est dit que Dieu a créé la lumière. Dieu est à l'origine de cette lumière qui est venue chasser les ténèbres. Et ça, c'était un acte de création qui s'est passé là. Il n'y avait pas de lumière et la lumière fut. Et lorsque la lumière est arrivée, les ténèbres ont été chassées. Ça a été instantané. Paul fait une comparaison ici. Paul compare ce moment de création au moment où Dieu a créé la lumière et a chassé les ténèbres pour le comparer avec le moment de notre conversion. Le moment où cette lumière divine qui nous fait connaître Jésus-Christ vient pénétrer dans nos cœurs ténébreux et chasser la noirceur de ces ténèbres. Et ça, c'est un acte de création divin. C'est Dieu qui fait cela. Normand, pour avoir prêché la parole depuis des années, sait que lorsque ça se produit dans un cœur, c'est un miracle. C'est Dieu qui s'est levé et qui a commencé à créer un être nouveau. C'est pour ça que Paul, un petit peu plus loin, parce que Paul va rester sur ce thème-là dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu est venu créer la vie, Dieu est venu mettre la lumière et créer une vie nouvelle. C'est un acte de création de la part de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Aussi, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un acte de création. C'est un miracle extraordinaire. C'est une intervention de la part de Dieu. Ma conversion, ta conversion, non. C'est un miracle. C'est un privilège extraordinaire. Et en fait, il n'y a personne de mieux placé dans la salle que toi pour le savoir. Et je dis ça à cause de tes origines. Pour ceux qui ne savent pas, Normand est d'origine juive. Et un tout petit peu plus tôt dans le passage au chapitre 3, Paul, qui était aussi juif, parle des Israélites qui plongent les regards constamment, les juifs qui plongent constamment les regards dans la parole de Dieu. Regardez avec moi les versets 12 et suivants, 2 Corinthiens 3, 12, juste un tout petit peu plus tôt. Voici ce qu'il dit, c'est Paul qui parle, il dit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. » Là, il fait allusion à d'autres passages dans l'Ancien Testament, mais restez avec moi. Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ, en Jésus-Christ, que ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et nous savons tous, mes amis, si vous avez connu personnellement Jésus-Christ, nous savons tous que pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour les gens que nous aimons, il y a un voile sur le cœur. Et on a beau exposer de la manière la plus parfaite l'Évangile, tant et aussi longtemps que Dieu ne retire pas le voile et que cette lumière divine ne vient pas pénétrer le cœur, il n'y aura pas de conversion. Et Dieu nous a fait la grâce de recevoir cette lumière-là. Et nous avons reçu la gloire de l'Évangile. Nous avons découvert en Jésus qui est Dieu, combien il est amour, combien il est saint, combien il est bon, combien il est patient, combien il est gracieux. Nous avons découvert Dieu sur la face de Christ. En regardant à la croix, on n'a pas vu simplement le chef d'une religion, nous avons vu notre sauveur personnel. Notre grâce pour nos péchés, notre espérance pour l'éternité. Une fois que tu as reçu ça, tu es prêt pour le ciel. C'est pour ça que Paul dit au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Normand, on a tout. Et c'est ça mon encouragement ce matin, c'est on a tout reçu. On a déjà tout. Moi, je suis prêt à partir. Il n'y a rien que je vais pouvoir faire dans le ministère qui va ajouter à ça. Dieu peut rien me donner de plus. Dieu m'a tout donné. J'ai déjà reçu cette grâce incroyable. Et des fois, on est là, puis on est dans le ministère, puis on se fait du souci, on se fait du tracas parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait, puis on prend ces responsabilités-là sur nos épaules, puis on se dit, boy, c'est probablement que je manque là, puis j'ai peut-être fait une erreur ici. Mais j'ai connu Christ. J'ai connu Christ, j'ai connu Jésus, mes péchés sont pardonnés, il me prépare une place au ciel. Le deal est fait. C'est terminé. Il n'y a rien que je vais pouvoir ajouter à ça. Tout ce que je peux dire, c'est merci, Seigneur. J'ai tout. J'ai le trésor. Et je dois me lever chaque matin en me rappelant cette grâce qui m'a été faite. Lorsque je regarde les gens autour de moi qui ne connaissent pas Jésus et je vois que j'ai été le bénéficiaire de ce miracle-là. Pas moi, Yannick, comme pasteur, chacun d'entre vous qui avez connu personnellement Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout a été reçu. Dieu ne pourra jamais me faire un plus beau cadeau que ça. Il n'y aura pas de révélation plus grande de Dieu que celle qui a été faite en Jésus-Christ. Dans l'éternité, il ne va pas nous sortir 25 nouveaux chapitres de la Bible pour nous faire découvrir d'autres aspects de sa grandeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ensemble la beauté de Christ et de ce qui a été fait à cette croix, et nous allons louer pour l'éternité la plus belle manifestation de la gloire de Dieu, l'agneau immolé sur la croix. J'ai reçu ça, j'ai tout reçu. Il n'y a rien que je peux ajouter. Et le reste, c'est des actions de grâce. Et j'ai besoin de m'en rappeler dans le ministère, c'est vrai? J'ai besoin chaque matin, quand j'attaque ma journée, avec, comme Paul le dit, avec tous les soucis que me causent, hein, l'amour pour l'Église, tu t'inquiètes pour un frère qui ne va pas bien, il y a quelqu'un qui n'est plus là, oups, il y a quelqu'un qui a eu un conflit avec quelqu'un d'autre, puis lui est tombé malade, puis il y a eu un décès, puis wow, tu prends tout ça. J'ai un trésor en moi, mes péchés sont pardonnés, puis Jésus me prépare une place au ciel. That's it. Juste ça. C'est assez. Maintenant, Paul, dans son passage ici, je vais aller rapidement avec deux implications pour notre ministère. Pour le ministère de Paul comme apôtre, pour notre ministère à nous qui prêchons la parole de Dieu, pour votre ministère à vous. Rapidement, regardez ce que Paul dit au verset 5. Il y a deux implications. Une concernant le message, une concernant ce que j'ai de l'air dans ma vie. Comment je marche, comment je vis. Verset 5. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Tu as le résumé de ce que c'est un apôtre. Tu as ici le résumé de ce que c'est un pasteur. Tu as ici le résumé de ce que c'est un chrétien. Un message. Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a rien que je vais pouvoir donner dans mes prédications. Il n'y a rien que je vais pouvoir donner à mes amis, à mes enfants, de plus grand que Jésus-Christ. C'est ce que Dieu avait de meilleur à me donner. Et si je suis en train de prêcher en avant et que je ne vous prêche pas Jésus-Christ, je suis en train de vous faire perdre votre temps. Je suis en train de perdre mon temps et je vous conduis dans le champ. Tout le reste autour, c'est de la fioriture. C'est des ornements. Si je ne vous prêche pas Jésus-Christ, je suis en train de vous conduire dans le champ. Parce que c'est en lui que nous trouvons la vie. C'est en lui que nous trouvons le pardon. C'est en lui que nous trouvons la force. C'est en lui que nous trouvons la paix. C'est en lui que nous trouvons la joie. C'est en lui que nous trouvons la grâce de pardonner, de faire face aux épreuves. On l'a reçu comme un cadeau. Le plus précieux que Dieu pouvait nous donner, c'est ce que nous avons de plus précieux à donner en retour. Et Paul dit, je vais vraiment m'appliquer à ne pas être en train de prêcher Paul, de prêcher Yannick. Alors, soyons concrets dans nos relations avec nos proches, mes collègues de travail, mes amis au cégep, mes amis à l'université, à l'école. Si je suis en relation avec eux, puis je me dis, ben écoute, faut que je me fonde dans le groupe un petit peu, faut que j'entre en relation avec eux, je vais essayer de leur faire connaître qui je suis, tout ça. Quand bien même ils découvriraient combien vous êtes une personne extraordinaire. Si vous ne leur avez pas annoncé Jésus-Christ, vous les avez privés du meilleur. Alors, ce n'est pas une question de est-ce que Yannick va être un bon prédicateur? Est-ce que Yannick va être hot? Puis là, les gens sortent d'ici et ils disent hey, ce gars-là, quand il prêche, oh, wow! C'est quoi l'idée? Moi, je ne peux pas vous amener au ciel. Et c'est pas parce que je suis en relation avec mon ami puis il découvre ma personnalité charmante et tout ça, extraordinaire et tout ça, que ça va l'amener au ciel. Non, le pire, ça serait ça, n'est-ce pas? Qu'il ait découvert ma personnalité charmante. Yannick, c'est un bon ami, c'est juste qu'il m'a jamais parlé de Jésus. Fait que là, il fait chaud ici. Pour l'éternité. Ça serait le comble. Alors, Paul mettait toutes ses énergies à ne pas se prêcher lui-même, à ne pas se mettre de l'avant, à ne pas parler de Paul. Ben oui, vous le trouvez plus intéressant. C'est correct, pas de problème. Est-ce qu'il prêche Christ? Amen. Le message. Vous n'avez rien de mieux à donner à vos enfants, à vos amis, à vos collègues de travail. Normand et moi, on n'a rien de mieux à donner à l'Église que Jésus-Christ, le Seigneur. Et évidemment, ça implique un style de vie. Voyez-vous, Paul avait reçu des révélations extraordinaires. Paul avait vu Jésus. Il avait une compréhension. Même l'apôtre Pierre, qui avait été avec Jésus, disait de Paul, « Paul enseigne des choses complexes. Paul était un homme cultivé, brillant. Un apôtre avec une autorité d'apôtre. » Mais Paul savait qu'il était, avant cela, un persécuteur de l'Église, un pécheur. Qui plongeait les regards dans la loi, parce que Paul était un pharisien, c'était un docteur de la loi avant de connaître Jésus-Christ. Il plongeait les regards dans la loi et il a découvert un jour qu'il n'avait rien compris. parce qu'il était là et il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Quand Paul a reçu ce trésor dont on parlait tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a une équation qui est venue dans son cœur. Sauvé par grâce, que je sois apôtre, que je sois pasteur, que je sois n'importe quoi, j'ai été sauvé par grâce. Ça fait de moi un serviteur des hommes à cause de Jésus. Et j'ai besoin de m'en rappeler comme pasteur. J'ai besoin de m'en rappeler dans ma relation avec les gens autour de moi. Si je ne le fais pas, je ne pourrais pas annoncer le salut par grâce. Il faut que tu aies l'air d'un gracier. Quelqu'un qui était condamné, à qui on a effacé la faute. Un gracier, c'est quelqu'un qui remercie, qui est humble, qui se donne, qui se consume en servant les autres autour de lui. Et alors, mon message va sonner vrai, rings, va avoir de l'air vrai. Mais je pense qu'on a besoin de se rappeler ça, non? Dans notre ministère. Lorsque les pressions du ministère viennent, on a un message, on a une attitude, on est des serviteurs de Jésus. Et comme on a reçu un trésor extraordinaire, il n'y a rien qu'on va pouvoir ajouter à cela. Tout est fait. Jésus nous prépare une place au ciel. Puis entre-temps, on va juste continuer à consacrer nos vies, à pousser le royaume par en avant, puis à servir les hommes. Amen? Amen. On va aller dans un mot de prière, puis je vais inviter les Joseph à venir nous partager un petit peu comment ça se passe à Gatineau. Quelques minutes encore, on vous garde une dizaine de minutes. Seigneur Jésus, je porte un trésor en moi, dans un vase de terre. C'est dire combien je suis fragile, combien je suis petit, Seigneur. Et c'est ce que nous faisons, chacun d'entre nous qui avons connu personnellement Jésus-Christ. Nous avons compris, Père, combien tu es amour à cause de la croix. Nous avons compris, Père, combien tu es saint à cause de la croix. Nous avons compris, Père, combien nous sommes pécheurs. Combien tu nous as aimés. Nous avons saisi, Père, que nous ne pourrons jamais nous racheter par nous-mêmes. Jamais rien ajouter à notre salut, comme s'il était incomplet. Qu'aucune des œuvres que nous ferons viendra ajouter à l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous. Et tu nous as fait cette grâce, Seigneur, de retirer le voile de nos cœurs pour faire pénétrer cette lumière divine. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour Normand et moi. Alors que nous passons nos semaines à réfléchir, à servir, à songer, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Église, où est-ce qu'on doit aller? Oh Seigneur, garde-nous comme de petits enfants, nous réjouissant chaque matin de notre salut, Seigneur, de ce trésor, de cette révélation que tu nous as donnée, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de prêcher un seul message, Jésus-Christ, Seigneur. Accorde-nous la grâce de disparaître derrière ce message. Et que les gens découvrent en nous des serviteurs, qu'ils soient intrigués par cette puissance qui agit en nous, pour que nous prenions plaisir à nous donner ainsi constamment. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Venez nous parler un petit peu de Gatineau?
Eh bien, premièrement, c'est bon de te voir, enfin. C'est bon. C'est bon de vous voir tous et chacun ce matin, de revoir ces beaux visages. On s'ennuie de vous autres. On est vraiment contents d'être ici ce matin et vous saluer à nouveau. Merci Yannick pour ton encouragement et ta prière et tes exhortations. C'est ça qu'on veut, hein? On veut autant à Gatineau qu'à Longueuil. Ouais. On veut peupler le ciel. C'est ça qu'on veut. On va voir des gens venir au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin du Seigneur là-bas aussi. Hein? Mm. Merci à Claude, merci Michel, beau témoignage. La région, premièrement, on est bien installé là-bas. On commence à être pas mal installé. D'ailleurs, on a eu la première visite familiale en fin de semaine. J'ai Joël qui prêche à Gatineau ce matin, pendant qu'on est ici. Toute la famille de Julie est à la maison, là, puis ils sont ici jusqu'à mardi, là-bas. La région de Gatineau, c'est une ville de fonctionnaires. 60-quelques% des gens travaillent au gouvernement. C'est vraiment intéressant. Je découvre des belles choses que Dieu fait dans cette région-là, que je n'avais jamais entendu parler avant. Par exemple, quand on arrive à un niveau au gouvernement, à certains paliers, c'est la loi « faut être bilingue ». Donc, il y a toute une école à l'intérieur du gouvernement. Il y a une école de langue où on enseigne les gens le français. Et une des personnes qui est en charge de toute cette équipe d'enseignants, à même le gouvernement, est un chrétien. Il est membre de l'Église chez nous. Il a l'occasion de prêcher l'Évangile régulièrement au gouvernement. Et il y a un autre bonhomme, un monsieur Robert Montgomery, qui est membre de notre Église, qui est dans l'équipe d'évangélisation, justement, à Gatineau. Il enseigne, son rôle, c'est qu'il enseigne les ambassadeurs qui viennent à travers le monde, qui viennent s'installer, les représentants de leur pays, des diplomates. Ils viennent s'installer dans la région, et ils ont leur ambassade à Ottawa. Et c'est un chrétien, missionnaire à temps plein. Et il enseigne le français à ses ambassadeurs. Et il se sert de matériel chrétien. Et à chaque semaine, en ce moment, il est en train de donner des vidéos avec des messages de la parole de Dieu à ces gens-là qui viennent de partout à travers le monde. C'est incroyable comment Dieu a ces gens qu'il place un peu partout là, pour annoncer l'Évangile. C'est vraiment assez impressionnant de voir ce que Dieu est en train de faire. Alors, priez pour nous là-bas. Il y a une des particularités, il y a beaucoup de ressemblances avec l'Église ici. Je dirais que l'Église ici, au niveau de la mission, est plus avancée, est plus en avant. Et nous, on regarde à Longueuil. Là-bas, on raconte un peu ce qui se fait ici. Et puis, vous êtes vraiment un modèle. Il y a des choses qui se font ici. Et on n'est pas rendu là. On est en train de travailler pour tranquillement se doter d'une vision. On est en train de travailler là-dedans en ce moment. Et puis, comment faire des disciples. C'est vraiment excitant. Franchement, là, on peut dire qu'on est vraiment béni là-bas. Et Dieu avait préparé notre place. Il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Et on veut vraiment le louer. On veut remercier le Seigneur pour le temps qu'on a passé ici. Ça a été vraiment une bénédiction. Si on a pu contribuer un peu, laissez-moi vous dire que vous avez contribué beaucoup dans notre vie. On a beaucoup appris et c'est vraiment drôle parce qu'il y a des choses qu'on est en train de travailler à Gatineau que j'ai apprises ici. C'est drôle comment Dieu avait arrangé les choses. Ils étaient rendus là-bas, puis il y a des choses qu'on a pu travailler ensemble ici et apprendre. Et c'est exactement là où ils sont rendus. Imagine-toi donc que ma femme m'avait bien dit « T'as besoin de pas t'impliquer dans un projet de construction. » Quand tu m'arrivais là. Ma femme me faisait des yeux de travers quand je parlais un petit peu de bâtiment, mais imagine-toi donc qu'on est en train de prier pour nous. Il y a tellement d'enfants là-bas. Il y a 200 enfants inscrits à l'école du dimanche. Beaucoup d'enfants. C'est une église pleine, bourrée d'enfants. Et puis, il faut bâtir deux ailes. Ils sont en train de travailler à planifier ça pour les enfants. Ça prend... C'est tellement d'enfants. On s'en sort pas, hein? Mais il y a des belles choses. Priez pour nous, que Dieu puisse se glorifier là-bas. C'est ça hein, qu'on veut ensemble, là, autant à Longueuil qu'ici. On vous aime beaucoup. C'est plaisant. Ce matin, je disais à ma femme, c'est tellement plaisant de retourner à Longueuil. Puis on a comme un pied à terre ici. Mm. Vous êtes une église très chaleureuse et on bénit Dieu pour les belles amitiés qu'on s'est faites ici. Alors que Dieu vous bénisse abondamment à Longueuil. Mm. Que Dieu te bénisse, Yannick. Vous avez une belle équipe, vous avez vos défis, Mais Dieu est avec vous autres et il va vous bénir. C'est
Amen.
Bon. Hein, on est entre bonnes mains.
Merci. Merci. On a un tout petit cadeau pour vous. On a fait notre enquête, là, je cherchais, là, j'ai parlé à Normand, j'ai dit, « Oh, je connais un sculpteur qui fait des chats, tu sais. Ah, Lise, je sais pas, les chats, non, je suis pas sûr. » Fait que Star, je pense, embarquer là-dessus, puis on a entendu dire que vous aviez découvert les lys de paix.
Oui! Hey, yeah, yeah, c'est voilà. Bon!
Fait que là, ça a l'air d'une grosse boule verte, mais ça va fleurir.
Oh, là,
ça va fleurir. OK. Hier, vous connaissez ça, un lys de paix, ça fait des belles fleurs blanches, c'est super beau. Fait que là, ça a l'air d'un, c'est ça, du gros gazon, mais ça va devenir beau. Ça va devenir beau, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Puis Danny et Rachel ont fait 16 magasins hier, j'ai dit, ça prend un beau pot blanc, tu sais. Après 16 magasins, ils ont téléphoné, ils vont dire, non, Yannick, sais-tu, non.
Merci. Fait que,
c'est très simple, mais que Dieu vous bénisse.
On en voulait un, puis c'est super. Merci beaucoup. Bien gentil. Merci.
C'est bon. On va prier ensemble, OK? Alors, sauvez-vous pas, on va chanter un chant ensemble. En fait, on a un chant pour Lise ce matin, pour les Joseph, c'est tout ça? On a un chant après, hein? Ouais. Alors, on va juste aller dans un mot de prière.
Tu
ne
me feras pas chanter.
Je ne te ferai pas chanter ce matin. On s'aime trop pour ça. On va prier ensemble. Mais je ne chanterai pas moi non plus, faites-vous-en pas. Lise pourrait chanter, par exemple. Mais on voulait les honorer. On voulait les honorer. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous voulons te bénir parce que vois, Seigneur, un homme et une femme de Dieu vieillir, avancer, continuer, persévérer, avoir des enfants, des petits-enfants et à travers, Seigneur, toutes les épreuves de la vie, persévérer dans la foi. C'est un témoignage puissant à ce trésor que tu as déposé en nous. Seigneur, au moment de la conversion de Normand et de Lise, personne n'aurait pu dire quelle était la destination. Et Seigneur, certainement, quelqu'un qui les aurait connus intimement aurait pu douter de la persévérance, des transformations profondes. Mais quand, Père, tu nous donnes des héros de la foi que tu gardes dans ta grâce, et parce que Normand me le dit souvent, il y a cette anticipation, ce désir de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas lâcher. C'est un témoignage à ta gloire, Seigneur. Un témoignage à ta grâce, Seigneur. Eh bien, Père, on veut te demander ta bénédiction sur les Joseph. Ta bénédiction de Gatineau. Avec les défis qu'ils ont, Seigneur, ils sont engagés dans la même œuvre que nous. Nous voulons, Seigneur, comme Normand l'a dit tout à l'heure, peupler le ciel en annonçant Jésus-Christ le Seigneur. Garde-les. Garde-les dans les années à venir. Envoie-nous toujours, Seigneur, de bonnes nouvelles de Gatineau. Ramène-les-nous quelquefois encore, Seigneur, pour venir nous raconter tout ce que tu fais là-bas. Donne-leur, Seigneur, des fruits, des conversions. Accorde-leur la joie de voir leurs enfants, leurs petits-enfants marcher fidèlement dans la foi, Seigneur. Et que ta bonne main, Père, repose sur cette maison, sur cette église. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.